VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, Nathalie Barge, pour vous présenter cette édition du 7 février 2017. Nouvelle mutinerie d'un corps d'élite de l'armée en Côte d'Ivoire où les militaires réclament des primes. Sécurité renforcée à Mogadiscio, capitale somalienne, à la veille de la présidentielle. Le président haïtien Jovenel Moïse a prêté serment ce mardi après des mois de crise politique. Amnesty International accuse le régime syrien d'avoir pendu 13 000 personnes en 5 ans dans une prison près de Damas. États-Unis, examen du décret sur l'immigration du président Trump par une cour d'appel. Et l'économie et les sports, ce sera juste après le journal. En Côte d'Ivoire, des membres des forces spéciales ont tiré en l'air pendant des heures ce mardi à Adiaké, dans le sud-est du pays. Le point avec notre correspondante Narita Namasté.
Des militaires des forces spéciales ont semé ce mardi la panique à Adiaké, ville située à une centaine de kilomètres d'Abidjan vers la frontière ghanéenne. Pour l'heure, aucune information officielle sur les revendications. Mais selon des sources, une affaire des primes non payées serait la cause de cet autre épisode de manifestation d'humeur militaire en Côte d'Ivoire. À Tingrela, ville frontalière du Mali située à plus de 800 km de la capitale économique, des tirs ont également été entendus au sein de la base des forces spéciales détachées pour sécuriser la frontière avec le Mali. Créée en 2011, l'unité des forces spéciales ivoirienne est un ensemble d'unités militaires spécialement formées, instruite et entraînée pour mener un éventail de missions particulières à renforcer le dispositif de sécurité mis en place dans le pays. Une vague de mutinerie avait en janvier secoué le pays où des mutins réclamaient 12 millions de primes et des meilleures conditions de vie. Narita Namasté, à Abidjan, VOA Afrique.
Patrouille de soldats lourdement armés, écoles et magasins fermés à Mogadiscio où les autorités souhaitent éviter une nouvelle attaque d'Al-Shabaab à la veille de la présidentielle somalienne. Tatiana Mosso.
Sécurité oblige, c'est donc dans un hangar de l'aéroport de Mogadiscio que les 275 députés et 54 sénateurs nouvellement élus choisiront le chef de l'État parmi 22 candidats dans un scrutin à plusieurs tours qui marquera la fin d'un processus entaché de nombreuses accusations de corruption et de fraude. Prévue en août, l'élection du président somalien a été plusieurs fois repoussée. Elle doit clore un processus électoral entamé en 2016. Toutefois, l'issue du scrutin reste incertaine car les différents clans risquent d'ajuster leur stratégie suivant les tours de vote. Quelques candidats se détachent, dont l'actuel président Hassan Cheikh Mohamoud et son prédécesseur Sharif Cheikh Ahmed. Le suffrage universel avait été initialement promis, mais cet engagement a été abandonné en 2015 en raison de querelles intestines combinées à une insécurité chronique due aux islamistes Shebab qui frappent régulièrement Mogadiscio. Maintenant, l'instauration du suffrage universel est envisagée pour 2020.
De nombreux quartiers de Kinshasa étaient inondés ce matin à la suite d'une brusque montée des eaux provoquée par un violent orage. Dans le quartier de la Gombe, la rivière est sortie de son lit. À Lingwala, autre quartier nord de la capitale, des habitants sont restés bloqués chez eux. Les rivières Makelele et Kalamu, dans des quartiers du centre de la ville, ont débordé également. La présidente libérienne Ellen Johnson Sirleaf a suspendu pour 2 mois les voyages des responsables gouvernementaux en raison de la dépréciation de la monnaie nationale, sauf exception relevant de sa seule décision, a indiqué le ministre de l'Information. Le moratoire mentionne notamment les efforts de la Banque centrale et du ministère des Finances pour stabiliser les taux de change. La banque a aussi été mandatée pour renforcer ses mesures de régulation pour juguler la sortie illégale de devises étrangères du pays. L'Égypte a approuvé les déclarations du président américain Donald Trump qui a accusé les médias de ne pas couvrir certains attentats à travers le monde. Les critiques de la Maison-Blanche visant les médias occidentaux pour avoir ignoré 78 attaques terroristes au niveau mondial méritent des louanges, assure dans un communiqué le ministère des Affaires étrangères égyptien qui précise que 9 de ces attentats ont eu lieu en Égypte. La pop star américaine Madonna a été autorisée par la justice du Malawi à adopter des jumelles dans ce pays où elle avait déjà adopté un garçon et une fille. Selon le porte-parole du tribunal de Lilongwe, les enfants viennent du même orphelinat que David Banda, le garçon adopté en 2006 dans la ville de Bjinji. Madonna avait ensuite adopté en 2009 une petite fille, Mercy James, également au Malawi, où elle a créé il y a 11 ans une fondation de soutien aux orphelins.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Haïti, le président Jovenel Moïse a prêté serment ce mardi après une crise électorale qui a duré près d'un an et demi. Blanche Sanou nous en dit plus. Alors je crois que nous avons un petit problème technique à propos de Jovenel Moïse. Donc Jovenel Moïse est devenu président après avoir prêté serment ce matin à Port-au-Prince. L'homme d'affaires de 48 ans accède aux plus hautes fonctions dans ce pays pauvre des Caraïbes. Plus de 2000 personnes ont été invitées à la cérémonie. La prestation de serment au Parlement a été suivie d'une cérémonie religieuse et du premier discours du 58e chef de l'État haïtien. Jovenel Moïse prend les rênes du pays après des contestations et un climat politique tendu lors du premier tour de la présidentielle en octobre 2015. Et selon le porte-parole de l'équipe de transition, le coût de l'investiture avoisine 1 million de dollars. Quand les prises de pouvoir de ses prédécesseurs René Préval et Michel Martelly avaient respectivement coûté plus de 4 et 2 millions de dollars. Amnesty International accuse le régime syrien d'avoir pendu environ 13 000 personnes en 5 ans dans une prison près de Damas. Ces personnes exécutées entre 2011 et 2015 dans la prison de Saïdnaya étaient en majorité des civils qui s'opposaient au régime de Bachar al-Assad, selon le rapport de l'ONG. Un seul convoi humanitaire a pu acheminer de l'aide pour 40 000 personnes en janvier en Syrie, alors que plus de 900 000 attendent d'être secourus, dénonce l'ONU. Lors d'un point de presse, Yara Sharif, porte-parole du médiateur de l'ONU pour la Syrie, indiquait que sur 21 demandes d'accès pour des convois de l'ONU, de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, un seul a été autorisé à passer. La nouvelle loi israélienne en faveur des colons viole la législation internationale, a estimé ce mardi le secrétaire général de l'ONU. Cette loi qui permet à Israël de s'approprier de nouvelles terres palestiniennes en Cisjordanie occupée est en infraction avec la loi internationale et aura d'importantes conséquences juridiques pour Israël, a affirmé Antonio Guterres dans un communiqué. La cour d'appel de San Francisco examine la décision du juge James Robert de Seattle qui a suspendu le décret présidentiel sur l'immigration. L'administration Trump a fait appel et Jack Aristide, c'est un bras de fer juridique qui ne fait que commencer, n'est-ce pas ?
Cet appel constitue la dernière étape possible avant un éventuel passage devant la Cour suprême à Washington. La volonté du président Donald Trump de fermer les frontières des États-Unis à d'éventuels terroristes a engendré un casse-tête juridique. Jusqu'où vont les pouvoirs du président américain en matière de politique migratoire ? En attendant, tous les regards sont braqués ce mardi sur la cour d'appel de San Francisco qui peut soit valider le décret Trump ou confirmer sa suspension. Cette cour a fixé une audience par téléconférence. Chaque partie disposera de 30 minutes pour s'exprimer. Les opposants, dont plusieurs États, des juristes et entreprises de la Silicon Valley, mettent en avant la Constitution en affirmant que le texte viole la liberté de déplacement, l'égalité des personnes, l'interdiction de la discrimination religieuse, entre autres. En face, les avocats du ministère de la Justice ont interjeté appel dans les règles. L'administration Trump justifie le décret par les pouvoirs que la Constitution confère au président qui, selon l'article 2, a autorité pour conduire les affaires étrangères et diriger la politique d'immigration. Le président américain a déjà qualifié James Robert de pseudo-juge et son jugement de scandaleux.
Le Sénat américain a sauvé à une voix près la nomination de Betsy DeVos, républicaine favorable aux écoles privées, à la tête du département de l'éducation. Les sénateurs ont voté par 50 voix contre 50 en sa faveur. C'est donc grâce au vote du vice-président Mike Pence qu'elle a pu obtenir la majorité. C'est la première fois de l'histoire qu'un vice-président vote pour une confirmation, comme la Constitution le lui permet en cas d'égalité. La nomination de Betsy DeVos par Donald Trump en novembre dernier avait provoqué la fureur des syndicats d'enseignants et des démocrates qui ont voté en bloc contre elle. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Morgane Guiriec.
Plus de pétrole qu'on ne le pensait au Sénégal. C'est ce qu'annonce la compagnie Phare LTD qui a donc augmenté de plus de 50% son estimation des futurs barils de pétrole non foré. L'entreprise évalue à 1,5 milliard de barils la quantité de pétrole se trouvant au Sénégal, indique le site upi.com. En Côte d'Ivoire, deux localités de Guiglo et Blo-Léquin bénéficient d'un programme d'accès à l'eau potable. Et d'après Abidjan.net, une équipe du ministère des Infrastructures économiques a lancé les travaux d'adduction en eau potable par la construction de canaux devant servir à la pose des tuyaux. Enfin, une conférence sur les mines se tient depuis hier en Afrique du Sud. Patrons et analystes de l'industrie minière africaine sont au cap. Depuis quelques mois, les cours du fer, du cuivre ou de l'étain sont nettement repartis à la hausse et ont redonné le moral à tout un secteur jusque-là en panne d'investissement.
Et à présent, les sports avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Nathalie.
Alors, du changement à la tête de l'équipe de football ghanéenne.
Ah oui, le sélectionneur israélien du Ghana, Avram Grant, a démissionné de ses fonctions après la défaite des Black Stars à la CAN au Gabon. Cela faisait un peu plus de 2 ans qu'il avait pris la tête de la sélection ghanéenne de football. On rappelle que le Ghana avait perdu face au Burkina Faso lors du match pour la 3e place, 1-0. Les Black Stars ont donc terminé 4e de la CAN.
Et 5 Nigérians ont été suspendus par la FIFA.
Oui, la FIFA a suspendu 5 personnes impliquées dans la bataille pour le contrôle de la Fédération nigériane de football. Chris Giwa, ancien propriétaire du Giwa FC dans la ville centrale de Jos, martèle depuis août 2014 qu'il est le président de la Fédération nigériane de football. Mais les résultats de cette élection contestée ont conduit la FIFA à menacer le Nigeria d'une exclusion de toute compétition internationale s'il n'organisait pas un nouveau scrutin. Et cette nouvelle élection a désigné Amaju Pinnick à la tête de cette fédération. Mais Giwa s'est ensuite engagé dans une bataille juridique en 2016 pour contester sa légitimité.
Et les demi-finales de la Coupe du Roi en Espagne.
Le FC Barcelone, vainqueur 2-1 de l'Atlético Madrid en demi-finale aller de cette Coupe du Roi, espère décrocher sa qualification ce mardi au match retour et exaucer ainsi le souhait de l'entraîneur Luis Enrique qui rêve d'affronter en finale son ancien club, le Celta Vigo. Pour cette demi-finale retour, le Barça sera privé de Neymar, suspendu en raison d'une accumulation de cartons jaunes. Quant à Lionel Messi, il devra faire attention à ne pas récolter un nouvel avertissement qui le priverait de la finale. Dans l'autre demi-finale, tout reste ouvert entre Alaves et le Celta Vigo.
Un joueur ivoirien signe en Chine.
Le joueur de Newcastle, Cheikh Tiote, s'est engagé avec l'équipe pékinoise du Beijing Enterprises. C'est ce qu'a annoncé le nouveau club de l'ivoirien. Le montant du transfert n'a pas été précisé. Cheikh Tiote, 30 ans, passé notamment par Anderlecht et vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations 2015 avec la Côte d'Ivoire, joué avec Newcastle depuis 2010.
Et pour terminer, un mot de NBA, le championnat de basket nord-américain.
Grâce à un 3 points de dernière minute de LeBron James en voyant les Cavaliers en prolongation et à un grand Kyrie Irving dans le final, Cleveland a battu Washington 140-135 au terme d'un match épique. Miami a enchaîné une 11e victoire d'affilée en battant Minnesota 115-113. Toronto également l'a emporté face aux Clippers de Los Angeles 118-109. Et puis les Spurs, eux, dans un mauvais soir à Memphis, défaite 89-74, San Antonio qui a manqué 23 de ses 25 premiers tirs dans le premier quart-temps.
Merci beaucoup Nicolas pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers du jour. Lutte contre le terrorisme en Afrique. Lors du sommet du G5 Sahel hier à Bamako, les dirigeants du Burkina Faso, Mali, Niger, Tchad et de la Mauritanie ont décidé de mettre en place une force conjointe. Bagassi Koura a recueilli la réaction du politologue burkinabé Siaka Koulibaly.
Ce que ça laisse transparaître tout de suite, c'est comme une espèce de foisonnement d'initiatives, mais qui ont le même objet. Il y a tout juste quelques jours, le 24 janvier à Niamey, les trois chefs d'État du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont adopté, dans le cadre du Liptako Gourmand cette fois-ci, les mêmes dispositifs à peu près. On sait aussi que la CDAO dispose d'un dispositif qui date depuis 1979 en cas de prévention de conflits et aussi a déjà mis en place une force en attente militaire qui a déjà intervenu en Sierra Leone, qui avait voulu aussi intervenir au Mali en 2012 et qui a été mobilisé également pour la crise post-électorale en Gambie récemment. Donc on a bien cette impression de chevauchement d'initiatives qui pourrait à la limite ne pas donner de résultats probants.
Pour vous, il faut harmoniser ces forces.
Voilà. Il y a donc un besoin d'harmoniser l'ensemble des interventions concernant les groupes terroristes dans le Sahel-Sahara et de mettre tous les moyens dans un seul dispositif.
Et certains pensent que la présence du Tchad va être un atout majeur, notamment avec son expérience dans le bassin du lac Tchad contre Boko Haram.
Oui, ça c'est indéniable. Le Tchad a l'avantage sur les autres pays de disposer d'une armée opérationnelle qui a combattu depuis les années 80, ils sont déjà en guerre civile. Donc c'est une armée qui est opérationnelle, qui fonctionne bien. D'ailleurs, en 2012, quand les groupes séparatistes avaient envahi le nord du Mali, jusqu'à la moitié du territoire, il a bien fallu faire appel au Tchad pour venir un peu sécuriser le reste du territoire malien. Donc c'est indéniable que la présence du Tchad dans ce groupe est extrêmement importante pour les aspects logistiques et le personnel. Maintenant, il va falloir quand même trouver les moyens, l'argent, pour mobiliser ces armées. On sait très bien que ce sont des opérations très dépensières qui fait que on est un peu sceptique quant à l'efficacité immédiate des engagements pris par les chefs d'État à Bamako.
Le politologue Siaka Koulibaly était joint à Ouagadougou, au Burkina Faso.
Washington Forum, ce jeudi, la face cachée de Boko Haram. L'insurrection meurtrière du groupe islamiste se poursuit du Nigeria au pays voisin. De la secte islamiste non violente à ses débuts, à sa métamorphose en un mouvement violent. Quel est l'envers du décor? Qui forme ses rangs? Comment fonctionne-t-il? En exclusivité, des images obtenues par la VOA. Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Et je vous donne rendez-vous ce jeudi à 19h, temps universel, avec Tatiana Mosso et ses invités.
Le Parlement israélien a adopté la nuit dernière une loi autorisant l'État à s'approprier contre compensation des terrains privés palestiniens sur lesquels des Israéliens ont construit sans autorisation en Cisjordanie occupée. Cette loi qui protégera les colons d'éviction scandalise les Palestiniens et les partisans et promoteurs d'une solution à deux États. Pour une analyse, Eric Manirakidza a joint à Washington le journaliste Émile Baroudi.
C'est un défi que le Parlement d'Israël présente à la volonté internationale. Et c'est un précédent juridique. C'est la première fois que la Knesset passe une loi qui permet de saisir des terrains en Cisjordanie avec des excuses dérisoires. Il suffit que les colons qui ont établi des colonies sauvages n'importe où déclarent que « Ah, pardon, oh, je ne savais pas que ça appartenait à des gens, à des Arabes. » Dans ce cas, il est exonéré et c'est l'État qui paye le prix de la terre à ses propriétaires. Et peut-être bien un défi à l'administration Trump qui débute un peu submergée par des problèmes internes.
Justement, Trump, avant qu'il ne devienne président, il avait critiqué la décision d'Obama au Conseil de sécurité. La semaine passée, la Maison-Blanche a modifié sa position par rapport à cette question.
Je ne crois pas que ça va être facile. Il y a une différence entre le président Trump et l'administration Trump. Beaucoup de choses vont changer, ne vont pas être aussi claires, aussi noires et blanches que ça l'était au temps de la campagne présidentielle. Mais il est indéniable que la position de l'administration Trump qui dit que toutes ces histoires de colonies n'aident pas beaucoup à rétablir la solution des deux États. Et c'est en fait vrai, parce que si les lois israéliennes commencent à être appliquées en Cisjordanie, pourquoi pas à Gaza bientôt, et pourquoi pas partout, pas seulement là où il y a des colons, puis il y aura des colons là où il faut pas. Ça va être la jungle, et si ça continue comme ça, il y aura un seul État, une seule loi, un État avec deux populations, un État avec deux démocraties, un État avec une discrimination, un régime d'apartheid. Ça ouvre les portes devant des situations innombrables et vraiment illimitées.
L'administration Trump envisage à déménager l'ambassade des États-Unis en Israël, à Jérusalem. Est-ce que vous pensez que ça va faciliter l'affaire?
La campagne Trump voulait déplacer l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. L'administration Trump ne s'est pas encore prononcée sur ce sujet. Ça va être très difficile, je crois. Jérusalem, sur le plan international, est toujours considérée comme une ville occupée. Pour les Nations Unies, a un statut de ville ouverte, de ville internationale, dont le futur devra être défini plus tard. Et comme cette définition n'existe pas, le statut de Jérusalem reste toujours ville internationale ouverte. Et tout changement à ce statut va provoquer des problèmes internationaux, que ce soit fait de la part des États-Unis ou de n'importe qui d'autre.
Notre confrère Émile Baroudi était joint à Washington.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
On revient en Afrique, au Togo, où la haute autorité de l'audiovisuel a retiré les fréquences de deux médias privés qui émettent depuis 10 ans. La raison invoquée est l'absence de formalité préalable d'autorisation. Il s'agit de la télévision, la chaîne du futur et la Radio City FM qui appartiennent au groupe Sud Média. Voici un reportage de Kay Lawson à Lomé.
Dans un courrier en date du 6 février 2017, le président de la Haute Autorité de l'audiovisuel de la communication HAC notifiait à l'administrateur du groupe Sud Média la décision du retrait des fréquences de la Radio City FM et de la télévision La Chaîne du Futur LCF. Déjà lors d'une conférence de presse le 2 février dernier au siège de la HAC à Lomé, le président de l'organe de régulation évoquait le motif qui a conduit aujourd'hui au retrait des fréquences. Pitan Tchala.
Contrairement à l'impression que vous avez, la HAC n'a pas disposé de dossier LCF. La HAC ne dispose pas de dossier LCF et CTFM. Il n'y a pas de dossier LCF. Si on vous a dit que c'est le cas, c'est faux. Je mets au défi celui qui vous l'a dit.
Ce sont des alibis qui cachent d'autres raisons, soutient Louis Kabaki, directeur de LCF et de CTFM.
S'il y a une institution avec laquelle nous avons véritablement travaillé en synergie depuis que cette chaîne-là existe, c'est bien la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. C'est encore elle qui nous donne l'aide de l'État à la presse. Du moins, c'est elle qui garantit l'octroi de l'aide de l'État à la presse. Et nous en avons toujours bénéficié. Donc, je ne comprends pas comment, après 9 ans d'exercice, on soulève un débat pareil.
À la suite de cette décision du président de la HAC, les 70 agents de CTFM et de LCF se retrouvent du coup au chômage. Une situation insoutenable, à en croire Junior Amenounia, animateur de programme sur LCF.
C'est insoutenable ce que nous vivons depuis quelques heures déjà. Mais on se dit, est-ce que c'est fini ou bien On va reprendre bientôt. Et c'est très difficile à supporter. Je lui dis à M. Pitantiala, moi j'étais ici, je faisais mon petit job ici, vous me l'avez retiré, ben, trouvez-moi du boulot, j'irai lui demander de l'emploi à Pitantiala.
Déjà au sein du bureau de la HAC, la décision ne fait pas l'unanimité. Le président du comité presse écrite, Zeus Aziarouva, vient de saisir la Cour suprême, indiquant qu'aucune décision n'a été prise en plénière concernant la fermeture de LCF et de CTFM. Il dénonce des manœuvres liberticides. L'indignation se ressent également au sein de la corporation. Patricia Adisekou, secrétaire générale de l'Union des journalistes indépendants du Togo, UJIT.
C'est la liberté de presse qui est en jeu. Et c'est la violation de la liberté de presse. Aujourd'hui, c'est des fréquences qui sont retirées. On ne sait pas ce que demain va donner.
LCF était en une période de sa vie définie comme la chaîne de fort, en allusion au président togolais Fornia Singbe. Kailosson, Lomé, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Togo sur Canal FM à Lomé, sur Radio Tchaudio à Sokodé et sur Radio Excelsior à Atakpamé.
En Syrie, le régime de Bachar al-Assad aurait pendu près de 13 000 personnes entre 2011 et 2015 dans la prison de Saïdnaya, selon un rapport d'Amnesty International qui dénonce une politique d'extermination, selon ses termes. Claire Morin-Gibourg a joint un porte-parole d'Amnesty, Yves Prigent.
Ce rapport est issu d'une année complète de recherche, de décembre 2015 à décembre 2016, et a fait appel notamment à diverses sources d'informations. Et donc on a recensé à peu près jusqu'à 84 témoignages qui viennent d'horizons très 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 divers, qui permet de retracer complètement le parcours à l'intérieur de la prison de Saïdnaya à Damas. Les témoignages viennent d'anciens détenus, de familles de détenus. Certains se trouvent encore en Syrie et également, et ça c'est un peu une chose nouvelle par rapport à ce qu'on a déjà publié dans le passé sur la Syrie, d'anciens gardiens, d'anciens magistrats, des avocats et des médecins. Donc on a tous les éléments de la chaîne.
Très rapidement, hein, le tableau que vous dressez est absolument effroyable dans cette prison.
C'est une abomination absolue. On peut citer l'un des gardiens que l'on met en exergue dans ce rapport-là, qui dit, selon ses propres mots, Saïdnaya, c'est la fin de la vie, c'est la fin de l'humanité. Et ça résume absolument ce qui se passe dans cette prison-là, qui a été transformée par le régime en espèce de gigantesque abattoir humain. Par rapport aux données dont nous disposons et que nous publions, on estime entre 5 et 10 000 personnes, plus de 13 000 personnes qui ont été tuées, exécutées dans cette prison-là, de façon absolument méthodique. C'est-à-dire qu'on incarcère de façon arbitraire des gens, disparition forcée, que ces personnes-là qui sont pour majorité des civils, soit des opposants avérés ou pas. Et une fois détenus, torturés, soumis à rude épreuve, de très nombreux d'entre eux en fait sont extraits de leurs cellules, transférés dans un tribunal militaire. Et à l'issue d'un procès expéditif de quelques minutes, sont ramenés dans la prison pour y être exécutés. Les exécutions ont lieu une à deux fois dans la semaine, de façon systématique, méthodique. Et à chaque fois, c'est par paquet de plusieurs dizaines de personnes, jusqu'à 50 par exécution, qui sont détenues, qui sont tuées en même temps.
C'est relativement nouveau. Personne n'avait jamais évoqué cette prison. Comment vous expliquez qu'il y a eu un tel silence?
Alors, c'est une prison qui, dans la région de Damas, qui passe pour être l'une des pires prisons de la Syrie contrôlée par le régime Assad. C'est vrai qu'elle n'est pas encore connue du grand public et c'est pour ça que nous nous efforçons de faire cette publication-là pour que la vérité se fasse jour et que le plus grand nombre de personnes puissent être au courant de ce qui se passe réellement en Syrie sous contrôle de Bachar el-Assad.
Yves Prigent d'Amnesty International était joint à Paris. C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, c'était Joselle Morissin. À la console, Martin Curcios. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Et rendez-vous également sur notre site internet voaafrique.com pour l'actualité en continu. Bonne soirée à tous et à bientôt.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Clédou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.